France Musique. France Musique, le casque et l'enclume, Lionel Esparza.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Casque et l'Enclume, votre podcast critique sur France Musique qui sera consacré aujourd'hui à Médée de Marc-Antoine Charpentier à l'Opéra de Paris depuis le 10 avril dans une mise en scène de David McVicar, en fausse Lézard Florissant et William Christie. Dans les rôles principaux, Léa Desandré, Reinoud van Mechelen et pour en parler avec nous aujourd'hui, Emmanuel Giuliani de la Croix et Philippe Venturini de Classica et des Échos. Médée qui n'est certes pas une première pour William Christie, on se souvient d'une superbe production il y a 30 ans avec la magnifique Lauren Hunt. De mon amour, l'air de Médée au troisième acte de la tragédie de Marc-Antoine Charpentier, William Christie, les arts florissants et la voix de Lauren Hunt. En 1994, Philippe Venturini me rappelait juste à l'instant que Bill Christie avait déjà dirigé 10 ans auparavant une Médée de Charpentier avec une toute autre distribution. Autant dire que c'est presque l'affaire d'une vie pour lui que cette Médée. Emmanuel Giuliani, avant de venir à l'orchestre et aux arts florissants, la mise en scène de David McVicar, qu'on n'est pas mécontent de voir, lui et cette mise en scène, c'est pas une première à l'Opéra de Paris, cette Médée-là.
Alors, à l'Opéra de Paris, c'est une première, mais la mise en scène ne l'est pas, puisqu'elle vient de l'English National Opera, donc l'opéra qui n'est pas le Covent Garden, qui est cet opéra dont on a beaucoup parlé dans l'actualité, parce qu'il a bien des déboires actuellement, et donc qui est cet opéra qui donne le répertoire en anglais. Mmh. Et d'ailleurs, on se disait avant de commencer l'émission, comme doit être étrange, oui. ce Médée, notamment les grands récitatifs si déclamatoires et où le français est vraiment tellement présent, dans la mise en scène telle qu'elle a été à l'English National Opera. En revanche, le parti pris de la mise en scène est collé peut-être très bien à cette conception toute anglo-saxonne de Médée à l'English National Opera, parce que David McVicar situe l'action mythologique antique pendant la Seconde Guerre mondiale, où en gros pour donner un coup de main à la vieille Europe assaillie par l'ennemi, eh bien c'est de triomphants américains qui viennent ajouter leur force, peut-être pas d'une subtilité totale, mais en tous les cas extrêmement efficace. Et il y a une sorte de choc entre l'ancien et le nouveau monde qui est représenté sur scène dans un décor unique, très beau décor, très élégant, tout dans des tons de gris, une grande salle lambrissée qui sera à la fois un bureau, une antichambre, un club à un moment avec les fauteuils adéquats. Extrêmement bien éclairé, on sent, on le sait à chaque fois qu'on voit de ces mises en scène, que McVicar est un très grand professionnel, donc tout est au cordeau, tout est parfait, tout est travaillé. Après cette transposition dans l'univers guerrier de la Seconde Guerre, marche bien pour la dimension guerrière, marche bien pour cette coalition de troupes et de forces qui n'ont pas forcément la même culture au départ. Pour ce qui est de la psychologie des personnages, on se pose un peu la question et ça ne va pas extrêmement loin. Mais en tous les cas, c'est soigné, c'est élégant, c'est cohérent. Donc déjà pour ça,
c'est bien.
C'est bien, un gros avantage sur bien d'autres spectacles.
Philippe Venturini.
Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel. C'est lisible, on comprend absolument, on suit parfaitement l'action. On peut juste préciser que le prologue a été écarté. On en conserve juste l'introduction, enfin l'ouverture orchestrale, pardon. C'est effectivement un spectacle qui avait été créé en 2013. Donc donc en Angleterre, et qui était venu ensuite à Genève en 2019, je pense. Oui, je suis même certain qu'on avait pu découvrir à ce moment-là à Genève.
On peut dire que c'est un grand spectacle classique à la MacVicar.
Oui, exactement. Faire, ça, voilà, hein, exactement. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on en a pour, je trouve, pour son argent, et on passe une belle soirée d'opéra avec effectivement les réserves que je partage, qu'a formulé Emmanuel.
Ouais. L'orchestre, on va y venir tout de suite. William Christie, Les Arts Florissants. Je disais tout à l'heure, l'affaire vraiment d'une vie pour Christie, charpentier, et Médée en particulier. Et ça s'entend quand même, Philippe.
Ah oui, c'est quand même Les Arts Florissants, des très grands soirs. D'une part, gros effectif. La fosse de l'opéra Garnier est vraiment bien pleine. Et puis, même, on se plaît à retrouver quelques figures un peu historiques des Arts Florissants, comme par exemple à la flûte à bec, Sébastien Marc, à la flûte traversière, Serge Saïta et Charles Zeblet.
Enfin, Marie-Ange Petit aussi, à la percussion.
Oui, Marie-Ange Petit, vraiment des quelques personnages clés des Arts Florissants. Emmanuel Lerèche, Caserta, premier violon, formidable. Une très très belle unité, des très belles couleurs, tous les passages en où les flûtes à bec doublent, les flûtes traversières sont vraiment magnifiques, l'homogénéité des cordes, et puis la direction de William Christie, oui, à la fois très énergique, et ce, dès l'ouverture, capable de grands contrastes, comme il peut le faire quand il est dans des grands moments d'inspiration, des moments de grande mélancolie, de tendresse, et puis des moments effectivement plus énergiques quand la musique devient, et l'action devient plus belliqueuse. D'un point de vue instrumental, musical, je trouvais ça vraiment superbe. Ouais.
Emmanuel Giuliani, j'ai pas arrivé, vous étiez au tout premier rang, vous,
oui,
derrière le chef. Hein.
Absolument, oui, j'ai, c'est une chance, hein, mais j'aime beaucoup, et notamment pour ce type d'orchestre, et tout ce que dit Philippe est absolument vrai, et on sentait en cette soirée, et j'imagine jusqu'à la fin des représentations, une connivence, ouais, entre les musiciens. Il y a énormément de dialogues entre premier et second violon, et véritablement clin d'œil et sourire compris. Ils dialoguaient à tous les sens du terme. On le voit aussi quand justement les cordes se taisent parce que l'introduction orchestrale est faite au vent. Philippe a évoqué les flûtes, et on voit l'air qui circule et les, ouais, les yeux des cordes qui écoutent à ce moment-là, qui regardent très souvent la scène aussi pour écouter et entendre les chanteurs. Là, l'éventuelle rivalité ou indifférence entre la fosse et le plateau, là, elle n'existe absolument pas. Donc, ça donne évidemment, après, à l'oreille, une cohésion, une variété de timbres, des moments élégiaques, des moments beaucoup plus éclatants. Quand la tragédie survient, quand les enfers s'ouvrent, véritablement, on a des paysages sonores absolument magnifiques.
Grande réussite musicale, donc, en tout cas pour les instruments, comme le disait Philippe, on va aller voir du côté des voix. Eh ben tiens, on va commencer par le rôle titre, Médée, Léa Desandré. Celle qui fait mon tourment, c'est un air de Marc-Antoine Charpentier. Ici, Léa Desandré avec aux luttes Thomas Dunford sur leur dernier disque Idylle qui est sorti il y a quelques mois seulement. C'est donc elle, Léa Desandré, qui fait ce rôle de Médée dont on peut dire qu'il est en deux parties. Emmanuel Giuliani, parce qu'il y a la femme bafouée d'abord, puis la magicienne après, qui devient quasiment une sorcière dans cette mise en scène.
Hein. Oui, parce que c'est une magicienne, Médée. Et comme elle dit, une vagabonde. Elle n'est chez elle nulle part. Donc, à part peut-être justement quand elle convoque les enfers, où là elle fait appel à d'autres mondes parce qu'elle est d'un autre monde. Et même dans cette première partie où Léa Desandré a essayé de s'intégrer à cette société de Jason, à cette société humaine plus traditionnelle, dès que un petit soupçon de ce poison de la vengeance et de la jalousie arrive, immédiatement elle fait passer dans son physique, alors qu'elle est pour le moment en petit tailleur strict noir avec une coiffure digne de Bette Davis dans les films hollywoodiens, on sent déjà que quelque chose va se briser et va se fracturer. Et ce qui me semble remarquable dans la prestation de Léa Desandré, vraiment que j'ai trouvé absolument magnifique, c'est qu'avec l'instrument vocal qui s'étoffe, qui mûrit, qui devient plus pulpeux, mais qui n'est évidemment, vous évoquiez Lauren Hunt tout à l'heure, tant au physique, la prestance et la voix, ça n'a rien à voir.
Et puis elle est plus jeune aussi, elle a 30 ans.
Elle est plus jeune, bien sûr. Mais avec des moyens qui sont en plus en pleine expansion, elle réussit à faire justement une mêlée humaine trop humaine, mais qui dès que l'aspect infernal de son personnage revient, grâce aussi à sa grande souplesse physique, à ses qualités de danseuse qu'elle a également, et que la mise en scène met à contribution, eh bien, on sent la possession, aussi bien vocale, psychologique que physique, s'emparer d'elle. Et en ça, elle fait une prestation magnifique, doublée d'une diction, d'une intelligence, des fins de phrases qu'elle suspend, ou au contraire, qu'elle tranche pour dire maintenant, ça suffit, je reprends mes droits. Je trouve que c'est vraiment une prestation assez bluffante.
Philippe Venturini sur Léa Desandré.
Oui, je partage les commentaires d'Emmanuel Giuliani. J'ai juste une toute petite réserve, aucune sur l'intelligence de l'artiste, sa sensibilité musicale, la qualité de la diction, l'intelligence du texte, tout est absolument parfait. On sent effectivement dès le début comment elle a intégré le personnage. C'est juste une toute petite réserve, mais là, elle n'y peut rien. C'est la couleur même de la voix dans laquelle me manque peut-être une faille, une fragilité qu'on pourrait attendre de ce genre de personnage, mais c'est pas une critique, c'est une question de quelqu'un a les yeux bleus, les yeux verts,
caractérisation,
1m50 ou 1m90. Mais tout le reste est absolument d'une remarquable, en effet, de sensibilité et d'intelligence. On le sait que c'est vraiment une fille qui est extrêmement intelligente. C'est pas seulement une chanteuse, c'est une fille qui réfléchit, qui comprend, qui saisit le parcours psychologique du personnage, et on le sent, comme l'a dit très justement Emmanuel, au cours de la représentation, qu'à un moment, au troisième acte, effectivement, ça bascule, et là, elle part dans une autre dimension, j'allais dire.
On reparlera de Reinoud van Michelen, qui est le jason de cette production, un peu plus tard, mais je voulais qu'on voit d'abord les autres rôles, parce qu'il y a quand même une belle distribution. Qui vous en retenez, vous, particulièrement, Emmanuel?
Alors, je retiens pour des raisons... J'allais dire à peu près tout le monde, mais je retiens pour des raisons théâtrales Laurent Naouri, qui au moment de la carrière où il est, évidemment, n'a plus sans doute toutes les possibilités vocales qu'il avait avant, et notamment de lignes de chant, et il n'aurait pas cette force théâtrale et cette présence, on trouverait que la ligne est heurtée et voire morcelée, mais il a une très grande présence, vraiment, et comme la mise en scène lui donne à la fois une dimension ambiguë, pratiquement incestueuse avec sa fille Créus d'une part, et d'autre part sa folie finale, puisque Médée, parmi tous les dommages collatéraux de sa terrible vengeance, en fait elle n'épargne personne, et lui en particulier, il faut dire qu'il n'a pas le beau rôle, les hommes n'ont pas le beau rôle dans cette histoire. Avant de venir complètement fou, il passe par une case grotesque qui, par un autre artiste, pourrait vraiment être malaisante, voire déplaisante. Et il arrive à lui donner, là aussi, une dimension à la fois pathétique, dérisoire, mais une grandeur qui montre vraiment la marque d'un grand artiste. Et puis moi, j'adore la voix de Élodie Faunard, qu'on entend plus souvent, peut-être dans des cantates de Bach, ou sortir des chœurs baroques... avec lesquelles elle travaille, que ce soit dans des petits effectifs ou plus amples. Et là, elle campe une suivante qui scéniquement est formidable tout le temps, et dès qu'elle chante, la voix est merveilleuse, charnue, pulpeuse. Donc elle est l'autre face des suivantes, puisque l'autre, c'est Emmanuel de Négri, qu'on aime toujours tellement retrouver. Mais on est plus habitué à ses qualités. Là, vraiment, Élodie Faunard, j'avais envie de l'entendre plus et encore.
Philippe Venturini.
Oui, exactement. J'allais aussi, moi, spontanément citer Élodie Faunard pour à la fois la présence, et effectivement, comme dit Emmanuel, dès qu'elle ouvre la bouche, voilà, c'est pareil, l'intelligence, la qualité de la diction, la pureté du chant, c'est, on dit, ah, dommage que le rôle soit si court. J'ai beaucoup aimé aussi, parce que c'est une jeune chanteuse que j'aime beaucoup, l'amour de Julie Rozek, je trouve toujours aussi un miracle de sensibilité, de délicatesse, de, voilà, elle était parfaitement distribuée en amour, cet amour un peu avec ses lunettes noires et ses ailes noires d'ailleurs, absolument remarquable d'intelligence. Et quand même, la créuse Dana Vieira Leite, je ne sais pas exactement comment il faut prononcer, qui fait donc cette jeune, la jeune créuse dont s'éprend Jason, que j'ai trouvé aussi quand même jeune chanteuse que William Christie a fait découvrir à travers son Jardin des Voix. Je trouve également une actrice et chanteuse vraiment, vraiment remarquable. Ouais.
En Jason, je l'ai dit, mais on va l'entendre ici, c'est Reinoud van Michelen.
Avec ardeur dont mon sort s'intéresse, je lui dois toute ma tendresse. D'une autre cependant je me trouve charmé, et malgré moi j'adore la princesse.
Un extrait de Médée de Marc-Antoine Charpentier en Jason, c'était ici Reinoud van Michelen sur l'un des disques qu'il a consacré à l'histoire de la haute contre en France. On en a parlé dans cette émission avec vous deux, je crois d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que cela. Okay. Reinoud van Michelen qui est donc Jason dans cette nouvelle production de Médée à l'Opéra de Paris sous la direction de William Christie. Mais je vous laisse, je crois que vous êtes une fanatique de Reinoud, Emmanuel, donc c'est vous qui prenez la main.
Absolument, absolument. Et je ne l'étais pas tellement il y a encore quelques années. Vraiment, là, il y a un développement vocal que je trouve absolument magnifique. Pourtant, je commencerai, si vous m'autorisez, par une petite critique, mais à mon avis, qui est liée à la première. Et là, comme tout le monde l'aura rassuré sur le fait que sa voix passe, projette très bien dans la salle, il ne se croira pas obligé parfois de forcer, voire d'un peu crier. Moi, c'est ce que je lui reprocherais hier, c'est que dans les moments vaillants et héroïques, il poussait un peu, il était aux limites. Et c'est pas la peine, parce que vraiment, le timbre, l'émission lui permettent, je pense, de toucher jusqu'au paradis, à l'amphi du Palais Garnier, sans problème. Et dès qu'il trouve son jardin des voix à lui, à savoir l'élégie, notamment le duo final au moment où elle a été merveilleuse aussi, Philippe l'a souligné, la créuse de Anna Vieira l'a été meurt, consumée par cette robe empoisonnée que Médée lui a offert, lui a offert contre son gré. Fallait pas la forcer à lui donner sa robe, voilà, ça, bon, bref. Et ils ont un duo, un des plus beaux moments de l'œuvre, qui pourtant recèle des trésors à qui mieux mieux. Et là où on a eu une alternance, puis une fusion des deux voix avec des vocalistes qui sont d'une subtilité d'une tendresse, d'une tristesse tendre, merveilleuse, là, il est absolument impeccable. Donc, dès que, voilà, il saura que c'est pas la peine de trop d'en rajouter, ce sera impeccable.
Philippe.
Oui, j'avoue que moi aussi, je suis très admiratif de ce chanteur depuis assez longtemps. Je trouve que c'est vraiment l'archétype de ce haut de compte, cet ténor aigu comme que réclame l'opéra français. Je trouve que c'est une telle merveille de... Enfin, moi, je suis très sensible dans l'opéra français à la prononciation. Ne pas être obligé de dire les surtitres, ça me paraît la moindre des corrections quand on va à l'opéra. Et avec lui, c'est vraiment un miracle. Et puis, il y a cette élégance, cette noblesse. Et bon, dans le personnage, en plus, qu'il incarne, on réclame ça tout en exigeant aussi beaucoup de sensibilité, de contraste. Parce que, bon, il y a du drame, il y a de la tension, il y a de la colère. Il y a de la contrariété entre ces différents personnages qui s'aiment et se rejettent. Et c'est... Oui, voilà. Enfin, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, mais ce n'est que pour moi, c'est magnifique. Ouais. C'est splendide. C'est vraiment la grande, grande classe, je trouve. Ouais.
Il faut qu'on mette une note à cette Médée de Marc-Antoine Charpentier à l'Opéra de Paris. C'est un nombre de casques, on va demain à 5. Emmanuel.
Oh, moi, j'en mettrais 5, parce qu'on ne voit quand même pas cet opéra si souvent. Et là, la qualité d'ensemble est telle que je crois que oui.
Oui, Philippe dit oui.
Oui,
pareil. On va le redire quand même. Médée, c'est quand même un opéra absolument formidable. Enfin, je dirais, musicalement, c'est absolument incroyable.
Mais qu'est-ce qui n'est pas formidable chez Charpentier.
Chez Charpentier,
vraiment, c'est quand même...
Oui, ouais. immense compositeur.
Ouais. 5 casques à m'aider à l'Opéra de Paris, à voir donc jusqu'au 11 mai côté Garnier. De Médée de Marc-Antoine Charpentier, version William Christie en 1995. Un grand merci à Emmanuel Giuliani et Philippe Venturini, Maud Nourry, Olivier Guérin et Éric Boisset. De nouveaux numéros du Casque et l'Enclume sur le site de France Musique et sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.